Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs. Une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitiques.
Juridiques.
Linguistiques.
Bonsoir, nous recevons ce soir Claudio qui vit à Cré et qui vient d'Italie. Pour assurer le déroulement de l'émission, nous serons trois dans le studio, Sarah, Sylviane et JD à la technique. Donc Claudio, bonsoir.
Bonsoir.
Claudio, pardon. Peux-tu te présenter, nous dire ta vie? On va parler d'abord de ta vie en Italie. Donc, on va commencer par ton âge.
Oui, 44 ans.
44 ans. Et puis, de quelle région d'Italie tu viens?
Je viens de la région de la Basilicata. C'est entre le talon et la pointe de la botte.
Là, sud d'Italie,
dans le sud
donc,
de l'Italie,
hein.
Oui, bien
d'accord.
Sûr.
Alors, raconte-nous un peu ta vie là-bas.
Ma vie à Matera. Bon, moi, j'ai vécu à Matera jusqu'à l'âge de 18 ans. Ville tranquille, sereine, avec plein d'histoires. Mais moi, quand j'y habitais, cette partie d'histoire a été oubliée.
C'est une partie.
La vieille ville, ça s'appelle Isassi di Matera. Il faut dire que Matera, c'est une des plus vieilles villes du monde, toujours habitée. Donc, il y a des témoignages du passage de l'homme dans la préhistoire à aujourd'hui. Et la ville, c'est une ville incroyable. C'est patrimoine de l'UNESCO. Et c'est une ville qui a été... utilisé dans beaucoup de films, surtout. Même le dernier James Bond a été tourné à Matera. Pasolini, c'était le premier à tourner un film sur la vie de Jésus. On dit que tout le monde vient tourner des films surtout sur la vie de Jésus, parce que on se croit en Palestine, mais on est en Europe. Et à ce décor déjà fait, donc très pratique pour les grandes productions cinématographiques. Il y a vraiment plein de films. Mais voilà, c'est une ville qui a été oubliée, c'est le centre à partir de la fin des années 50 jusqu'au 93, quand l'UNESCO est revenu. Le centre-ville était complètement abandonné. Et puis heureusement, l'UNESCO est arrivé à commencer à dire « Ah, il y a quelque chose peut-être ici ».
Ça a été reconstruit grâce à l'UNESCO.
Ça a été restauré plutôt. J'y allais quand même parce que ma mère avait beaucoup d'amis qui vivaient là-bas. Même si c'était avec ce côté un peu abandonné, mais quand même avait toujours un certain charme. Mais pour moi, c'était normal parce que ça faisait partie de tout ce que j'ai toujours vécu. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était exceptionnel. Et puis, quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit, ah, ils ne sont pas tous comme ça, les villes, alors.
Ah oui, d'accord.
Mais du coup, moi, j'allais voir les amis de ma mère. Et quand on était un peu plus ados, on allait se cacher dans les sassi di Matera. On amenait des instruments la nuit pour déranger personne. Et du coup, c'était un peu notre cachette.
Parce que le centre était quand même habité à Matera, même au moment où c'était en déclin, on va dire.
Ben, ça, le centre historique, il était très peu habité quand j'étais petit.
Ah, voilà.
Il y avait plein de manifestations pour essayer de refaire revivre le centre, leur centre-ville. Il y avait des associations qui essayaient de faire du cinéma en plein air, des petits festivals. Mais bon, quand même, c'était vraiment abandonné. Il y avait un peu la petite Malavita locale qui habitait, des chiens de partout, il y avait un peu de...
Oui,
c'était à l'abandonné, c'était à l'abandon, c'était même un petit peu dangereux. Oui. Maintenant, c'est hyper luxueux, il y a que des B&B, il y a des restaurants.
Mais c'est plus accessible aux Italiens? C'est toujours le même problème, non?
Non, maintenant, c'est touristique, c'est un musée. Donc, on est passé d'un excès à l'autre.
Mm-hmm.
On a un peu privé de son âme, moi, je pense.
Et tu continues à y aller? Tu as encore des gens que tu connais là-bas?
Ouais, j'ai toujours des amis de ma mère, mais là, je sais pas, il y a combien de B&B, il n'y a que des B&B maintenant, donc...
Ça a perdu son charme.
Il n'y a pas d'âme, quoi. Ouais. Et c'est dommage.
Sûr.
Et donc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis je suis parti à l'université dans une autre ville, à Pérouse.
Ah oui,
où j'ai fait mes études jusqu'à mes 25 ans.
Des études de quoi tu as fait ?
J'ai eu un master en communication. J'ai fait 5 ans là-bas. Et parallèlement, j'ai commencé à étudier la musique.
Oui, ça a quand même été un fond toujours ouais, derrière.
La musique était ouais, toujours là. C'est juste qu'à 16 ans, j'étais un rocker. J'ai fait du rock, du métal avec une guitare électrique. Et aujourd'hui, je me retrouve accordéoniste, compositeur.
Belle évolution.
Pianiste. Je suis passé de l'électrique à l'acoustique. Disons que c'était un gros changement.
Et comme tu parles du piano, tu pourrais dire un peu qu'est-ce que c'était le morceau qu'on a entendu en fond, en début de l'émission ?
Oui, c'est une composition que j'ai faite pour une pièce qui s'appelle « Le souffleur ». Avec Paolo Crocco. Et ouais, je m'occupe aussi de composer de musique pour des pièces de théâtre. J'en ai fait 8 ou 9. Et tout ça, c'est. Donc j'ai utilisé forcément le piano pour composer. Et des fois, je m'en sers aussi pour enregistrer, en fait.
Voilà, on le réentend.
Voilà un petit fond sonore.
Ah ouais.
Et du coup, quand tu nous as envoyé le lien là, vers ce morceau, j'ai regardé un petit peu le souffleur, ça a l'air, enfin je le conseille à nos auditeurs, ça a l'air très intéressant comme pièce.
Merveilleuse cette pièce, moi ça m'a vachement touché.
Quel est le sujet ?
Ben, ça parle de la fin de ce métier un peu, de la fin de métier du souffleur, qui a commencé exactement avec la pièce française qui a un peu révolutionné le théâtre, qui c'est Cyrano de Bergerac. Et à partir de ce moment-là, ils ont compris que la pièce aurait tellement tourné qu'ils n'auraient plus eu besoin du souffleur. Donc c'est le souffleur qui revient au monde. Ben, c'est un peu, je vais laisser découvrir les gens. Ils demandent à Manitou de revenir sur Terre parce que quelqu'un avait écrit une pièce sur lui. Et donc ça parle un peu de la fin de ce métier. Parce que voilà, Cyrano a tellement tourné que les comédiens n'avaient plus besoin d'avoir des souffleurs.
Vous connaissez le rôle, quoi.
Ouais, vous connaissez bien le rôle.
D'accord. Alors, on va parler un peu de la vie italienne en général, comme tu l'as connue, de ses traditions. Parce que moi, j'ai lu que quand même, ce qui caractérise la société italienne, c'est le côté familial, le côté fête, la convivialité. Alors, parle-nous un petit peu de
groupe.
Ça. Le groupe.
Ouais, disons que moi je viens. Ouais, disons que on est très habitué à être en groupe. Ouais, mon existence était comme ça quand j'étais toujours en meute, non, on peut dire, comme des loups.
Ouais. Mais aussi bien familial que amitié, en fait.
Ouais, dans les deux cas, et familial et amitié. Disons que pour moi c'était rare de me retrouver seul. C'est un truc que j'ai appris dans le temps, beaucoup plus tard.
En France.
En France, plutôt. Ouais.
On est plus individualiste.
Oui, c'est vraiment des caractères différents. On peut en tirer des côtés positifs et négatifs des deux cultures. Mmh. Mais ça, c'est pour chaque chose de la vie, je pense. Mais ouais, c'est difficile, entre guillemets, avoir une vie intime.
Ah oui, à ce point-là, oui.
Ouais, c'est tout est groupe. On va au cinéma en groupe, on va au restaurant en groupe. Et moi, j'ai eu la chance quand même de vivre ma première partie de vie avec plein d'enfants, plein d'amis. Et puis, même à l'école, même quand on va à l'école, nous, on rentre en première, au CP. Et on sait que pendant 5 ans, on aura toujours les mêmes copains et la même maîtresse
groupe, quoi,
à l'école. Comme ça, c'est la même chose au collège et c'est la même chose au lycée. Donc, ça nous permet aussi vraiment de créer des petites familles, même à l'école. Je sais que c'est pas la même chose ici. J'apprends ici avec ma fille qui va à l'école, donc qui changera chaque année de prof. Mmh. Donc pour nous c'est un peu bizarre ça.
Oui, mais même les profs.
Ah, même les profs vous les changez. Pardon.
Oui, je posais la même question. Même
non, 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 on changeait pas. Oui, c'est clair qu'après il y avait des nouvelles matières qui arrivaient. Donc, mais j'ai eu les mêmes profs pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Donc, on est très, 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 très groupe dans tout ce qu'on fait. Et c'est un peu difficile de se retrouver soi-même. Après, comme je disais, avoir une intimité, c'est un peu On est beaucoup plus bruyant, ça c'est clair.
Oui.
Mais voilà, il y a toujours. Moi, j'ai toujours vécu des grandes situations de fête, mais toujours avec de la sérénité. Et le bruit, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me donne de la sérénité.
Oui, c'est la vie qui résonne partout. Oui,
ouais, ça me rassure, le bruit. En fait, ouais. Souvent, on me dit, moi j'habite dans le centre de Cré, souvent on me demande, c'est pas trop bruyant, le marché, ça te réveille pas. Moi, j'aimerais bien pour plus de bruit.
Oui, c'est un peu calme là, le
c'est
soir.
C'est un peu calme.
J'imagine.
Et dans ta famille, excuse-moi,
non, vas-y,
tu avais beaucoup de frères et sœurs?
Ouais, moi j'ai 3 frères. Moi, je suis le 4e de 4 frères. Donc, on était 6. Et puis, il y a toute la. Disons, du côté de mon père, il venait des Pouilles, mon père. Donc, une partie de sa famille était dans les Pouilles, mais une partie était à Matera. Mais la famille de ma mère, en fait, tous les frères et sœurs de ma grand-mère, ils étaient 9.
Ah ouais, ça fait donc, des familles énormes.
Et donc des jolies fêtes.
Et puis beaucoup de cousins, de cousines. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, c'était
et
agréable.
Et avec des cousins musiciens par ailleurs?
Non, en fait, non. Disons qui a développé de la famille, c'est ce truc de la musique, c'est vraiment ma famille, en fait. Et j'avais mes frères, mais ils ont pas continué, même si c'était très doué. Je suis l'unique un peu qui a quitté la ville, qui est parti, qui a eu son sentiment de voyage, et de découverte, et de curiosité, et surtout musicien. Ouais.
Et le reste de ta famille est en Italie?
Si.
Ouais, ils sont restés là-bas.
Ouais.
Donc, tu y vas souvent? Enfin, comment tu les vois? Ils viennent ici? Comment ça
non,
se passe?
Non, non, non. Les bougies, non. C'est très compliqué. Hein. C'est pas... bouger ma famille, c'est pas simple. pour eux, je suis un extraterrateste. Oui.
Parce que tu es le seul à être parti, pratiquement.
De ma famille de proche, la plus proche, ouais. Mm. Ma génération d'amis, non. Mes amis du lycée, ils sont la plupart à quitter la ville. En fait, ma génération, oui, moi, je suis de 79, donc nous, c'est une génération qui a commencé à bouger pour les études et puis même pour le travail. Mm-hmm. On a vachement bougé. J'ai des amis un peu partout, en Italie et en Europe, en fait.
Parce que quand tu dis bouger, c'est pas forcément à l'étranger. Enfin, à l'étranger, en Europe, quoi. C'est plus en Italie, même intra-italien, ça bouge beaucoup.
Ouais. Ben, dans le sud, à partir de. Disons, nous on fait moi, j'ai fait partie de cette génération qui est partie pour les études.
Mais déjà, c'était un début.
Donc,
ouais.
Pour l'université. Et voilà, déjà, c'était rare aller à Bari, qui est à 60 km. On cherchait plutôt Milan, Rome, Turin, Florence. Donc, aller dans le nord. Et beaucoup de monde qui est parti n'est plus revenu, en fait. Il a construit sa vie là-bas. Et il y en a pas mal aussi qui après ont quitté l'Italie aussi, en Angleterre, Espagne, États-Unis.
Et ça, ce départ d'Italie, c'est pour des raisons économiques ou parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, quoi, hein, simplement?
Ben, je pense qu'on avait déjà cette croyance que les meilleures facs, les meilleures universités, ils étaient pas chez nous.
Pas dans le sud.
Donc moi, je me souviens quand je suis arrivé à Perugia. J'avais, là aussi, on était très groupe, mais on dirait que tout le sud avait migré à Perugia. Moi, j'avais des amis de tout le sud d'Italie, de la Sicile, de la Calabre, des Pouilles, de Naples, des Abruzzes. On aurait dit que tout le sud de l'Italie avait bougé dans le nord. Et on était énormément. En fait, le centre, ça a parlé méridional, on peut dire. Ça, on connaissait pas des gens de la ville. On a mis vraiment longtemps. Moi, j'ai mis longtemps à connaître des gens, des gars de Perugia, en fait. Et c'est un peu la même chose qui est arrivée à Rome, qui est arrivée à Milan. Mais c'était vraiment pour les études au début. Et puis, je pense que après aussi pour des raisons de travail, il y en a certains qui ont essayé de profiter après de cette vague de tourisme qui quand même. Et cette vague qui est toujours présente, qui est récente aussi dans le sud de l'Italie, la vague du tourisme augmente énormément, voire Matera aussi, mais même Naples, c'est énorme. Donc, certains sont descendus pour essayer de profiter un peu de cette vague de tourisme, qui a ouvert un B&B, qui a essayé de travailler dans le tourisme, en tout cas.
Par rapport au tourisme,
ouais. Mais sinon, ouais, notre génération est partie, pas pour les mêmes raisons, des gens d'après la guerre.
Oui, parce qu'après la guerre, c'était vraiment économique, en fait.
Après la guerre, ouais, c'était économique.
L'Italie avait... Enfin, toute l'Europe était dans un mauvais état, il faut dire, quand même.
Moi, j'ai eu la chance, avec mon métier, d'aller visiter le Canada, la Belgique, l'Argentine.
Avec quel métier, alors ?
Musicien.
Musicien. Ah oui, musicien. Ton métier, c'est musicien, musicien, parce que les études de communication...
J'ai abandonné. Voilà, c'est ça, ouais. Non, j'ai terminé parce ouais. que...
Mais tu n'en as pas fait ton métier, quoi.
Non, je n'ai pas fait mon métier. Bon, on peut dire que la musique,
c'est... Oui, ça
c'est...
sert aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr.
Mais oui, hein, surtout parce que j'avais étudié des choses qui... En fait, j'ai terminé mes études en 2005 et on sait bien que la communication a tellement changé après, avec Internet et tout ça, donc... Nous, on avait à peine les premiers portables. Donc... Mais bon, c'était pas une vocation pour moi, c'était,
oui, c'était
la musique.
Pas, c'était...
Mais non, mais je disais, j'ai eu la chance de voyager un peu partout et de retrouver pas mal de migrés.
Oui.
De fils de migrés de troisième génération.
Ouais, je vais en parler après.
Et on va en parler, mais j'ai récolté beaucoup de témoignages. J'ai fait même beaucoup de vidéos, des interviews sur toi, Buenos Aires, avec des gens qui avaient d'origine italienne. C'était incroyable parce que n'importe où j'y allais, mais j'écoutais toujours la même histoire.
C'est-à-dire, en gros
En gros, ça veut dire qu'il y avait la troisième génération qui essayait de récupérer des origines que la première génération essayait de cacher.
Ouais. Bah, c'est ce donc, qui se passe avec d'autres actuellement, hein, avec d'autres, enfin des immigrations plus tardives, on va dire. Hein,
oui, c'est un phénomène dans pas mal de migrations, en fait. Ça, des gens immigrent et ceux qui ont immigré au début le cachent plus ou moins, essayent de s'intégrer.
Ouais, exactement.
Et oublient souvent leur ou mettent de côté leur culture. Ouais. Et c'est les enfants qui
récupère, mais souvent c'est moi j'ai vu c'était la troisième génération j'ai ils essayaient de, après c'est pas une généralisation, je veux dire il y avait dans tous les cas, mais j'ai interviewé des gens qui m'ont raconté des voyages incroyables à 3 ans 4 ans. Je me souviens il y en avait un qui s'était caché dans le train pour aller de Naples à Gênes, parce qu'à Gênes après il y avait le bateau qui partait à Buenos Aires. Il s'était caché dans une valise parce qu'il n'avait pas le billet du train. Et puis à ce moment-là, il y a le contrôle qui passe. Et lui, il avait tellement peur de la valise qu'il avait commencé à faire pipi. Et puis il y avait de l'eau qui sortait de la valise. Non, il y a des histoires incroyables.
Ah ouais, ça, tu vois, dans un film, tu n'y crois pas, quoi.
Ouais, voilà.
D'accord.
C'est ça.
Et tu en as fait quelque chose de toutes ces vidéos ?
Non.
Non ?
Non.
Ça serait intéressant de faire...
Ben, moi, j'étais parti avec celle qui est actuellement c'est mon ex-femme, mais c'est vrai qu'on s'est posé souvent la question, mais on n'a pas, comment dire, un fil rouge qui puisse unir toute cette image. C'est très compliqué, en fait. Mais peut-être, il faut demander à elle, c'est à quelle les images.
Oui, et puis peut-être voir à la radio au niveau du son, ça pourrait être intéressant de faire
un
montage avec tout ça.
Ouais, ça c'est des...
Faire des capsules sonores, comme on dit.
Pourquoi pas.
Quand tu retournes en Italie, tu retournes dans le sud, voir ta famille, ou il y a des endroits en Italie où tu t'es senti particulièrement bien, justement, quand tu es allé pour tes études, ou je ne sais pas, le tourisme, quoi. Ce qu'on fait, nous, comme tourisme, finalement.
Bah, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tellement plein d'amis en plein de villes de l'Italie. J'y vais à Milan, je me sens chez moi, comme si je vais à Rome, je me sens chez moi.
Oui.
Je vais dans les Marques, où j'ai des amis. Et souvent, si je vais chez moi en Italie en voiture... Je m'arrête à voir tous mes potes, en fait, tous mes amis. Donc, il y a plein de régions, mais l'Umbria, donc Pérou, c'est vraiment, je me sens vraiment chez moi. Les Marques, et Milan aussi, et Rome, Naples, je me sens chez moi aussi.
Oui.
C'est
pas de problème, quoi.
Non, j'ai des amis un peu partout. C'est vrai.
Et bon. Au niveau de la langue, parce que y a une langue nationale italienne.
Ouais.
Mais quand tu dis que tu vas un peu partout, il y a aussi des langues régionales, non ?
Ouais, mais c'est très riche de ce point.
Et au niveau étudiant, du coup, vous parliez d'italien ?
On parle l'italien, parce que, il faut dire, je ne sais pas si... Que nous, en Italie, on parle la même langue à partir depuis les années 50, depuis l'arrivée de la télé, en fait. C'est là que quelqu'un commençait à parler en italien, son accent, son dialecte et tout ça. Aujourd'hui, on parle encore de dialecte, bien sûr, mais voilà, depuis la télé, l'italien est rentré dans les cultures de régionaux, en fait. Et c'est clair que quand j'avais tous mes potes qui venaient d'autres parties d'Italie, on s'amusait bien à montrer son propre accent, à montrer comment on prononçait certains mots par rapport à notre culture. Déjà, voir des Siciliens et des Sardes qui parlent entre eux, c'est marrant quand même.
Mais vous comprenez ? Enfin, tu comprends le Sicilien ou le Sarde, par exemple ?
J'ai moderne, oui. Oui. Ça veut dire, j'avais des amis, donc je les comprenais. Ils m'ont appris plein de mots. J'avais surtout beaucoup d'amis napolitains, donc j'ai eu la chance d'apprendre pas mal de mots et d'expressions, parce que des fois, il y a des expressions qui... de dialecte, tu ne peux pas rendre dans la langue nationale, si on peut dire. Donc, ça reste quand même un pays très récent, même c'est l'Italie, parce que et surtout, on parle la langue depuis pas très longtemps. Donc, il y a encore des accents très, 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 très forts. Ouais.
Excuse-moi.
Tu reconnais aux accents et à la manière de parler région des Italiens.
Oui, ça se reconnaît.
Bon,
ça,
comme nous, à Marseillais, on le reconnaît aussi. Quoi.
Oui, on le reconnaît vite. Quoi. Oui. Mais même dans certains gens, tu peux même reconnaître la ville.
Ah oui, à ce point-là.
À ce point-là, il y a des...
Aujourd'hui, je regarde Internet en même temps. Aujourd'hui, il y a 110 provinces italiennes. Alors, je ne sais pas si elles ont toutes langue, mais c'est ouf.
Ouais, c'est très... Mais c'est lié à l'histoire, évidemment. C'est déjà avant l'unification, il y avait le Royaume du Sud, et puis tout le reste d'Italie était divisé en petits états. C'est compliqué, parce que quand même, c'est un pont en plein milieu de la Méditerranée. Donc, on a eu plein d'invasions différentes. Et donc, et surtout, on a beaucoup de zones de frontières. Donc, on a la Slovénie, on a l'Autriche, on a la France. Dans les frontières, on se mélange, il y a beaucoup d'influences. Donc, c'est...
Mais quand tu parles de la langue et des différences, tu parles de l'accent. C'est-à-dire que c'est que sur l'accent et que quelques mots, ou c'est plus profond, les différences?
Non, c'est entre... Par exemple, j'ai joué pendant 20 ans avec un guitariste de Udine, au nord-est de l'Italie. Non, moi, je ne comprends rien. S'il parle sa langue, je ne comprends rien. Sicilien, j'ai eu du mal. Non, on parle vraiment de...
C'est des langues différentes.
C'est des langues.
Et Claudio, moi, je me pose une question quand je regarde l'Italie, là, qui est bordée de mer, et tu dis qu'il y a les influences des autres pays. Toi, tu dirais qu'il y a une grosse influence de la mer dans ton enfance ou dans tes amis?
Mais tu reconnais les gens qui ont vécu au bord de mer. Ça veut dire il y a vraiment une différence entre les Italiens de mer et celles plutôt à l'intérieur. Moi, je suis plutôt collinaire, donc... Il n'y a pas eu beaucoup d'influence à la mer sur moi. Moi, je vois surtout l'angoisse de ces gens quand ils sont dans des villes sommaires. Ils sont la mer, ils sont là, ils souffrent.
Ils souffrent de quoi?
Il leur manque la mer.
S'ils quittent la mer,
tu vois. Après, au bout d'un mois, deux mois, moi, j'avais plein d'amis à Pérou. J'ai parlé de l'Umbria. Je pense qu'il n'y a même pas de mer. C'est une des très rares régions en Italie qui ne touchent pas la mer. Et ils souffraient. Et moi, je ne comprenais pas ça. Je ne pouvais pas comprendre. Mais oui, je pense que cette influence, historiquement, est une influence différente quand tu habites dans la mer. Parce que dans la mer, il y a toujours quelqu'un qui peut arriver. Donc, c'est plus ouvert, ouais. Et tu es plus malin aussi. T'apprends à
te débrouiller. Je sais
pas, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là?
combien de temps ça met, Claudio, à passer de l'est à l'ouest, je sais pas, en voiture, mettons?
Dans l'est à l'ouest, j'ai pensé quoi? C'est 4 heures.
4 heures de route?
Ouais, à peu près. Ça dépend de la route. Mais oui, j'ai pensé quoi? 400 km, un truc comme ça, un peu plus.
Ouais. Vous voulez qu'on mette un petit morceau?
On va peut-être écouter un petit morceau de musique.
Ok. Alors, c'est parti.
pour Pizzica di San Vito.
On demandera à Claudio de prononcer après.
Nous sommes sur Radio Saint-Péréol 94.2 dans l'émission Ici et d'ailleurs. Claudio, peux-tu nous dire un peu ce qu'on vient d'entendre, nous raconter un peu?
Ben, ça s'appelle una pizzica. Le style est pizzica. Ça fait partie de la famille des tarentelles, pour dire. Et c'est typiquement de la fin du talon de la boîte de l'Italie, en fait. Les pouilles, la puglia. Mais la dernière partie des pouilles s'appelle Salento. Donc, c'est typiquement de là-bas, avec leur accent, leur dialecte. Et donc, voilà, c'est un peu ça.
Et quelle est l'histoire? Parce que je crois que c'est une histoire intéressante.
Non, c'est des phrases d'amour, en fait. L'histoire de la pizzica, c'est un truc.
Ça
peut prendre du temps. Hein.
Je suis un spécialiste
parce que moi j'ai fait.
Tu nous en dis un petit peu?
Oui. Ben, la pizzica, c'est pizzicare, ça veut dire piquer. Donc en gros, piquer, c'était lié à cette légende où on croyait que des gens étaient piqués par la tarentule. Et donc, ils avaient un poison à l'intérieur. Et l'unique façon pour se libérer de ce poison-là qui les rendait malades, complètement malades, c'était d'appeler des musiciens, avoir certaines couleurs et danser, en essayant d'imiter cette tarentule. Et ce poison serait resté dans le corps de cette personne jusqu'à quand l'araignée ne sera pas morte. Et donc, cycliquement, la personne piquée pouvait revivre cette chose jusqu'à quand l'araignée n'était pas morte. Donc ça pouvait durer même 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais ça, c'est une légende qui après a été étudiée surtout par un anthropologue qui s'appelle Ernesto De Martino, qui en a parlé dans un livre qui s'appelle La Terra del Rimorso. Et voilà, moi j'ai fait mon mémoire à ce sujet-là. Donc on peut faire une émission sur ça.
Ouais. On en fera une autre.
Oui, on fera peut-être une émission un jour là-dessus.
Ouais, si vous voulez.
Bon, alors avant de passer à ton arrivée en France avec Sarah, hein, après on va parler de ce que tu fais maintenant et comment tu es arrivée en France, je vais faire un petit topo sur l'émigration italienne. Parce que comme tu nous le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'Italiens qui ont quitté l'Italie pour partir un peu partout. Donc, l'émigration italienne qui a débuté dès le Moyen-Âge a réellement marqué l'histoire depuis le 19e siècle. De nombreux étudiants sont partis pour des raisons économiques et politiques vers la France et la Suisse. Et à partir du 20e siècle, aussi beaucoup vers les États-Unis. Les Italiens ont été sollicités pour le développement de la France après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont occupé des postes dans l'industrie, la construction, l'agriculture, la restauration. Ils ont été la plupart du temps confrontés à des défis d'intégration normale, notamment linguistique et culturelle. À leur arrivée en France, ils ont souvent été exploités, travaillant dans des conditions difficiles, dans des métiers peu qualifiés et mal payés. Ils vivaient dans des logements surpeuplés et précaires, partageant des espaces avec d'autres migrants. Leur intégration n'a pas été facile et ils ont souffert de discrimination. Pour trouver du soutien et un équilibre entre leurs racines italiennes et leur nouvelle vie en France, ils se sont appuyés sur des associations communautaires. Leur contribution à l'évolution et à l'enrichissement de la société française a été variée, forte et est toujours d'actualité. L'influence italienne a touché de nombreux domaines artistiques comme le cinéma, la musique, la littérature, mais aussi la gastronomie et le domaine entrepreneurial dans le monde de la restauration, de la mode et du bâtiment. Les coutumes familiales italiennes ont aussi modifié la société française. Leur cuisine a eu un impact majeur, la convivialité de leurs célébrations et l'importance de la famille en tant que source de soutien émotionnel et matériel ont influencé le mode de vie en France et renforcé souvent la solidarité dans la société. Je voudrais donc parler aussi des deuxième et troisième générations italiennes en France, puisque l'arbre généalogique de 4 à 5 millions de Français comporte une branche italienne, l'immigration transalpine étant ancienne. Ils sont toujours fiers de leurs racines italiennes, ils continuent souvent à célébrer les traditions familiales et à assister à des événements culturels italiens. Ils visitent régulièrement l'Italie pour rester connectés à leur patrimoine. Tout en s'intégrant pleinement dans la société, il crée ainsi une riche mosaïque culturelle en France. Alors pour conclure, je vais lire un extrait d'un discours du général de Gaulle de 1943 qui devrait toujours être d'actualité. « En pareille matière, l'autarcie mènerait vite à l'abaissement. Sans doute, dans l'ordre artistique, scientifique, philosophique, l'émulation internationale est-elle un ressort dont il ne faut pas que l'humanité soit privée. Mais les hautes valeurs subsisteraient pas dans une psychologie outrée de nationalisme intellectuel. Nous avons, une fois pour toutes, tiré cette conclusion que c'est par de libres rapports spirituels et moraux, établis entre nous-mêmes et les autres, que notre influence culturelle peut s'étendre à l'avantage de tous et qu'inversement peut s'accroître ce que nous valons. Mais la flamme claire de la pensée française, comment eût-elle pris et gardé son éclat si inversement tant d'éléments ne lui avaient été apportés par l'esprit des autres peuples ? Cela eût été impossible si elle n'avait eu le goût et fait l'effort de se laisser pénétrer par les courants du dehors.
Alors c'est dommage que la radio ne soit pas la télé et qu'on ne voit pas les mimiques qui sont exprimées à l'annonce d'une déclaration du général de Gaulle. Moi, quand Sylviane nous a envoyé cette déclaration, ma première réaction, c'est de me dire qu'il y a quand même pas mal de politiciens qui se réclament du gaullisme, qui devraient la relire. Vu tout ce qu'ils peuvent dire sur les migrants qui arrivent en Europe et comment ils les rejettent et qui cherchent surtout à les faire se couper de leurs racines. Et du coup, enfin, comme on a parlé là de l'émigration, moi j'aimerais aussi dire quelques mots sur l'immigration. Parce que l'Italie, bon, dont on parle aujourd'hui, c'est quand même le premier pays européen qui est rejoint par beaucoup de migrants qui viennent soit d'Afrique, soit du Moyen-Orient ou même d'Asie plus loin. Ils passent par l'Italie quand ils arrivent. Parce qu'il faut quand même rappeler que depuis janvier 2023, plus de 2500 personnes sont mortes. On parlait de la mer tout à l'heure. Il y a 2500 personnes qui sont mortes, enfants, femmes et hommes. Depuis janvier. Il y a une partie des migrants qui arrivent en Italie qui vont faire leur demande d'asile dans un autre pays. Et c'est là que la solidarité intra-européenne dont on entend souvent parler va montrer qu'elle est en fait assez hypocrite à cause de la loi Dublin qui porte préjudice bien sûr aux migrants en premier lieu, mais également aux Italiens et aux Grecs, notamment, qui se retrouveraient à devoir gérer toutes les demandes d'asile de tous les migrants si ces derniers se pliaient à la loi Dublin, comme l'aimeraient les autres pays européens. Parce qu'en effet, la loi Dublin, qu'on appelle Dublin III, c'est un document signé en 2013 entre les pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, qui stipule qu'un demandeur d'asile doit déposer sa demande dans le premier pays qu'il a accueilli. Et c'est une vaste question qui touche à l'accueil des migrants. Et j'en profite pour dire que notre prochaine émission va être justement sur tout ce qui est les problèmes d'accueil. Mais je pense que c'est important. Enfin, quand on parle de l'Italie aujourd'hui, sans rentrer dans les questions politiques, mais c'est effectivement, quand on parlait de la mer, les gens qui habitent au bord de la mer font face à cette venue, cette arrivée des migrants, sans soutien des autres pays européens du tout, quoi. Voilà, on voulait parler, juste le dire un petit peu. Mais donc, ouais, nous, on va continuer en fait sur l'émigration, puisque toi, tu as émigré d'Italie. Et c'était quoi ? L'envie de voir le monde, tu nous disais tout à l'heure.
Oui, moi, je suis parti d'Italie. En réalité, c'était pas volontaire. Je venais de connaître trois personnes qui, comme moi, avaient la même envie de faire de la musique. Et c'était en 2004. Et puis, on jouait dans la rue souvent, tout le temps, en fait. Et on mettait un chapeau, et le chapeau, il était à la fin de la journée plein d'argent. Ça nous permettait de manger, ça nous permettait de m'acheter des choses. Pour l'instant, on n'avait pas misé à faire un voyage, mais une année après, moi, j'ai terminé mes devoirs en Italie, donc à l'université et les autres aussi. Et du coup, on a commencé un voyage en se disant, bon, on y va, on va jusqu'à Paris. Et du coup, voilà, on a pris une voiture, les instruments, des habits, la brosse à dents et tout ça. Et on est parti. Et à chaque ville où on s'arrêtait, il y avait toujours quelque chose qui... Parce qu'en fait, le fait de jouer dans la rue, c'était incroyable parce que chaque jour, il y avait quelque chose de beau qui arrivait. Nous, on jouait dans la rue, le chapeau se remplissait, on pouvait transformer l'argent en essence, en nourriture, repartir. Mais à chaque fois, on terminait dans des maisons, des gens nous accueillaient. On était vraiment très bien reçus à chaque fois.
Donc, des belles rencontres.
Que des belles rencontres, que des belles choses. Grâce à la musique, c'était un passeport qui plaisait à tout le monde, en tout cas.
Et qui permet l'échange.
Qui permet l'échange, parce que les choses... Donc, on s'est retrouvés dans des situations incroyables à chaque fois, jusqu'à quand on est arrivé à Paris. Et puis, une fois arrivé à Paris, on continue à jouer dans la rue. Et voilà, on a vu que quand même, il y avait le secteur culturel, il était beaucoup plus développé comme on était nous habitués en Italie. En Italie, je ne veux pas généraliser en Italie parce qu'on vivait quand même dans un petit village, une ville quand même, à Perugia. Donc, on ne savait pas comment ça marchait à Rome, à Milan. Mais du coup, on s'est retrouvés à Paris. On a commencé à jouer. On a vu que tout de suite, de la rue, on est passé au café.
C'est-à-dire qu'il y a eu des demandes.
Il y avait des demandes, il y avait de la possibilité de jouer de partout. Il y avait la possibilité de jouer parce qu'en même temps, l'hiver arrivait. Donc,
dans la rue, c'était plus compliqué. Donc,
c'était un peu plus compliqué, il faisait froid. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de musique acoustique, surtout. Beaucoup de groupes qui jouaient avec des instruments acoustiques et on était moins habitués à voir ça en Italie. Quand je dis en Italie, c'est pas que je connais toute l'Italie. C'est juste
là où tu venais.
De là où on venait. Et nous, là, moi, je venais de... Ça faisait 2-3 ans que j'avais commencé à... 3-4 ans que j'avais commencé à jouer de la musique acoustique. Donc, j'étais passé de la guitare électrique, j'avais un groupe rock, et puis je suis passé avec le tambourin de la musique acoustique traditionnelle pour passer après à l'accordéon et puis pouvoir, avec ces gars que j'ai connus, travailler des compositions. Et ça nous a permis après donc, de faire des concerts avec des titres originaux composés par nous. Et donc, on voyait que le public répondait bien. Donc, on a connu les cafés parisiens où, en fait, il y avait beaucoup de musique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester, en fait.
Vous êtes installé à Paris.
On s'est installé à Paris.
Et du coup, vous avez fait de la rue... Les cafés et des concerts.
Des cafés, après, oui, des salles, des concerts. Et puis, on a commencé à tourner. Et voilà, le groupe a quand même 20 ans d'histoire. Donc,
comment il s'appelle, ce groupe ?
Le groupe s'appelle Guappe Carto. Et là, en novembre, je vais faire ma dernière tournée avec eux.
Donc, tu continues à jouer avec eux ?
C'est novembre, c'est la fin. Je termine mon expérience avec eux pour de nouvelles expériences. Musicaux, non ?
Mais avec eux, tu es aussi parti à l'étranger parce que tu nous as dit que tu étais parti à l'étranger tout à l'heure. Donc, c'est avec ce groupe ou c'est indépendant ?
Avec le groupe, j'ai fait le Canada, la Belgique, l'Europe, Buenos Aires. Non, je l'ai fait tout seul, en fait. Mais la musique, ça m'a beaucoup aidé, même à Buenos Aires, quand je suis allé à Buenos Aires. Donc, la musique était toujours présente.
Tu y as été pour jouer ?
Non, je suis allé en vacances, mais je me suis retrouvé sur beaucoup de scènes une fois arrivé à Buenos Aires.
C'est super quand même.
Ben oui, parce que j'ai connu toute la communauté d'italiennes présente, comme vous avez parlé tout à l'heure, des associations, l'association de la Basilicata, l'association de la Calabria. Et donc, vu que j'étais le vrai Italien pour eux, j'étais un vrai Italien. Les gens arrivaient me parler de leur vie. Il y avait des larmes de partout. Les gens me touchaient. Du coup, j'étais devenu un super-héros. Un super-héros comme ça. Tout d'un coup, c'était pas tendu. Donc, je me suis senti une star. N'importe où j'y allais, dès qu'ils entendaient mon accent, les gens pleuraient. Il y avait toujours ce lien vers un passé. Et surtout, il y avait une idéalisation de l'Italie. Parce que la plupart ne connaissaient même pas l'Italie. Donc, ils avaient une nostalgie de quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Mais ils ne connaissaient pas l'Italie vraiment, mais ils connaissaient la musique alors. Tu les as connus par l'intermédiaire de la musique.
Je l'ai connu parce que ouais, j'étais un peu en galère. J'ai un problème.
Rassure-nous un peu.
Non, j'étais un peu en galère et puis j'ai connu une personne qui m'a amené dans la communauté des Italiens. Mmh. Et puis quand ils ont su que j'étais italien, on m'a accueilli direct. Quand ils ont su que j'étais tambouriniste et accordéoniste, ben là...
C'est Dieu qui arrive.
C'est Dieu qui arrive parce qu'eux, il a joué aussi, mais de leur manière.
Oui.
Et il y avait une association qui s'appelle Gioia d'Italia. Ils étaient des gens entre 5 ans et 80 ans. Et ils reproduisaient des danses italiennes, entre guillemets. Ça veut dire ce qu'eux pensaient que c'était les danses italiennes avec des habits italiens, mais toujours
revu
alors...
Revu et corrigé. Quoi.
Ouais, tout était... Et donc, ils reproduisaient des danses, des trucs. Il y avait des groupes de pizzica, de tarentelle, mais qui jouaient pas vraiment... à la même phase, c'était tout. Donc au début, tout le monde était hyper gêné de me voir, genre oh, il va nous découvrir.
Il va nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait.
Du coup, j'ai dû rassurer tout le monde, mais faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas le juge qui va, je vais pas juger. Et puis j'ai même donné des cours de tambourin. J'ai fait un gros stage. On m'a amené à jouer à la Festa della Immigrazione, où il y avait, je sais pas, 25 stands différents de tous les pays qui ont immigré là-bas. J'ai joué de la Plaza de Mayo devant je sais pas combien de milliers de personnes. J'ai joué à l'ambassade italienne à Buenos Aires. Il m'a amené partout. J'ai passé 5 heures à la radio italienne à Buenos Aires, interviewé.
Mais il y a énormément d'Italiens là-bas?
Énormément, ouais.
Ah oui, ah oui.
Ben, je pense que plus de 50% de l'immigration était italienne.
D'accord.
C'est marrant. Parce...
Les trois communautés, je regarde en même temps, là, comme tout à l'heure, les trois communautés étrangères à Buenos Aires, donc c'est dans les années 1800, c'est italienne, espagnole et française.
Ouais.
Ben, c'est une longue histoire.
C'est...
L'Argentine et le... Et la communauté italienne.
Moi, ce qui est, c'était quand je suis arrivé dans l'aéroport, je peux pas oublier, il y avait déjà un bordel, pas possible. Mais les gestes, ils étaient les mêmes. Du coup, je me suis dit, mais on est en Argentine là. Oui, oui, oui. Et...
Tu es resté combien de temps là-bas, du coup?
Un mois et demi.
Ah oui, pas très longtemps.
Non, pas très longtemps, mais intense.
Intense, oui, parce que
Dieu, pendant un mois et demi, c'est dur quand même.
Ouais, j'avais du mal à quitter cette dimension. Non, c'était une... Et là, j'ai revécu... Cette année, je suis allé au Canada pour jouer avec mon groupe et à Montréal. Et là aussi, la tournée a été organisée par...
Par des associations italiennes?
Par un gars italien, d'origine italienne. Et là aussi, j'ai vu un peu de communauté italienne. Et c'était intéressant. Après, les histoires sont un peu toutes les mêmes.
Intéressant, tu étais moins dieu qu'à Buenos Aires.
Ouais, mais là, on était cinq. Hein, cinq dieux.
Cinq dieux, ça devient compliqué.
Ouais, c'était vrai.
Et après, du coup, tu étais à Paris.
Du coup, je suis resté à Paris, ouais.
Et Cré, longtemps. Ça fait combien de temps?
Cré, je suis arrivé à Cré début 2021.
Et comment on passe de Paris à Cré?
Alors, avec le train. Non, je rigole, c'est tout.
Je m'en doute.
Non, comment on passe? Y a plein de raisons qui m'ont amené ici. Déjà, il y avait beaucoup de monde qui me parlait de Cré, de la Drôme en général.
À Paris?
À Paris. Mais, en fait, quand tu... Comment, moi, j'ai senti...
Tu tournais peut-être avec ton groupe.
Non, il y a un moment où j'en avais marre de Paris, en fait. J'avais envie de changer de vie, en fait. De changer. Donc, j'ai commencé à chercher. Quand on cherche quelque chose, on en parle souvent aux gens qui on croise dans notre chemin, en fait. Mm. Du coup, j'ai essayé de vivre à Barcelone, j'ai essayé de vivre à Rome, j'ai essayé de vivre... j'avais l'idée d'aller à Toulouse. J'ai cherché. J'ai parlé toujours avec Dieu du monde. J'ai cherché un endroit... plus humain déjà et surtout voilà et du coup tout le monde me parlait un peu mais va voir la Drôme, va voir Cré, peut-être c'est ça que tu cherches. Donc à force d'entendre ça, je suis venu voir en fait. Et puis j'ai eu l'alarme aussi parce que j'ai une petite fille qui devait arriver en fait, j'ai une fille qui devait arriver et moi je voulais pas qu'elle naisse,
à
Paris déjà. Du coup elle est née en Italie.
C'est sûr.
On a décidé avec la maman de la faire naître en Italie. On a vécu 3 ans en Italie avant de retourner en France et voilà. voilà, on est arrivé, on est retourné à Paris pile pour le confinement. Donc,
c'était sympa.
40 mètres carrés. C'est ça. Et puis, mais même cette, ce moment difficile, ça nous a donné la, la pulsion de réagir le rapidement
ailleurs,
possible. Mmh. Et donc, on est venu voir Cray, la Drôme, on a trouvé un appart et puis on s'est installé ici.
Et quel âge elle a ?
6 ans. Ma fille a 6 ans.
Elle a 6 ans.
Ouais. Ouais. On est rentré en CP.
Donc, tu connais effectivement l'école française.
Ouais.
Et tu peux voir les différences avec comment ça se passe en Italie.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, oui, ma mère est dans le domaine de l'école, donc il y a des différences. Ouais, ouais. Mais déjà, on ne change pas beaucoup de...
de maître.
De copains, Cray, surtout. Ouais, ouais. Bon, Cray, il n'y a pas le risque, parce que tout le monde se connaît dans la maternelle.
Ça, ouais. Ça doit plus ressembler à ce
que tu as connu.
Ouais, ouais,
non, non, mais moi, je suis très content d'être ici, ça, c'est clair.
Elle est bilingue, ta fille ?
Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Elle a appris d'abord l'italien, en plus. Quand elle est arrivée en France, sa mère lui a toujours parlé en français. Mais quand elle est arrivée en France, elle avait un fort accent italien. Mmh. Et je me souviens, on était en Normandie après le premier déconfinement. Et donc, elle roulait les R en français comme ça. Donc, tout le monde croyait qu'elle parlait le dialecte de la Normandie. Elle croyait que c'était une vraie Normande.
Une vraie Normande.
Ouais.
On roule les R, du coup, en
Normandie. Apparemment, ouais, parce que tout le monde était étonné. Ah, mais elle parle vraiment avec l'accent de la Normandie. En fait, un Italien qui parle français, on peut dire qu'il a l'accent de la Normandie.
Ah ouais, ça me paraît bizarre quand même.
Oh, c'est marrant.
On va peut-être écouter un morceau.
Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Saint-Denis.
Saint-Denis, vu qu'on parle de mon arrivée en France, mais la première partie de Paris, de la France qu'on a vécue, c'était Saint-Denis, le 93. Et on a écrit ce morceau dédié à
Saint-Denis.
Saint-Denis.
Ah bah, très bien.
Alors, allons-y.
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2 dans une émission de Ici et d'ailleurs. Et notre invité est Claudio, qui vit à Cray.
Oui.
Qui vient d'Italie, pour ceux qui nous rejoignent. Et on en était à Cray, justement, ouais. Et donc à ta vie maintenant. Donc, ta vie à Cray, c'est toujours la musique ?
C'est toujours, là, mais c'est encore plus.
C'est encore
plus
qu'avant.
C'est encore plus, parce que j'ai plus de problèmes de voisinage. Je peux faire du bruit jusqu'à quand je veux. J'ai joué 10 fois plus qu'avant. J'ai plein d'amis musiciens avec qui on joue. J'ai mon espace pour un petit studio à la maison. Je peux vraiment me concentrer énormément sur la musique. Je suis un obsédé de la musique. Donc, j'ai fait ça à partir
c'est,
de...
C'est une obsession pas mal quand même.
Je commence à 8h30 du matin et je termine à 10h le soir.
Et tu habites dans la ville, dans Cray, pour dire qu'il n'y a pas de problème de voisinage.
Ouais, j'ai la chance d'avoir des
voisins qui
sympas.
Aiment bien la musique.
Ouais.
Ah, chouette.
Ça tombe bien.
Moi, je croyais que tu habitais dans le désert, mais non, pas du tout.
Alors, je ne pourrais pas, je pense.
Et donc, ta vie, c'est la musique,
oui.
Ta fille.
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'elle joue de la musique?
Non, mais on chante ensemble. On commence à découvrir des gammes sur le piano. On chante ensemble tout le temps, en fait. Donc, j'essaie de lui faire ce cadeau un peu.
Et ta femme est musicienne aussi?
Mon ex.
Ton ex.
Mon ex, ouais. Elle est chanteuse aussi, mais elle travaille plutôt dans le cinéma. Oui. Donc, voilà.
Milieu artistique, quand même.
Ouais, milieu artistique. Mmh. Ouais.
Et du coup, dans Cray, tu joues chez toi, tu t'entraînes, tu joues beaucoup
ouais,
de musique.
Pour l'instant, pas
et
beaucoup.
Sinon,
dans
tu tournes, tu joues de... Parce que dans la rue, il ne me semble pas t'avoir vu jouer dans
la
rue.
Non, dans la rue, je ne joue plus. Maintenant, je suis vieux, j'ai froid. Non, j'ai rien.
Un peu plus de confort maintenant.
Un peu plus de confort. Non, alors, qu'est-ce qui se passe? Je termine mon expérience avec le groupe là, en fin novembre. Donc, je vais retourner en Italie une semaine pour des dates. Et puis, je viens de créer un groupe, un nouveau groupe, un trio de tarentelles avec deux musiciens qui habitent dans la Drôme aussi. Et donc, c'est tout nouveau. Et j'espère, avec ce groupe, de jouer plus souvent dans la région et j'ai pas eu beaucoup d'occasions en fait.
Vous avez quand même joué plusieurs fois, non?
On a fait 3 concerts pour l'instant. Ouais, on a joué au 734 dimanche dernier pendant un festival d'automne. Mais voilà, bientôt on va jouer un peu plus quoi.
Vous avez déjà une tournée de prévu?
On travaille sur ça parce que vraiment il est tout frais, donc on est en train de monter dossier. On a fait un teaser. On est en train de monter tout le matos pour commencer à bien travailler en fait.
Comment vous êtes connus tous les deux avec les deux autres là?
Bah il y en a l'accordéoniste parce que là je joue le tambourin et je chante. L'accordéoniste c'était mon prof l'année dernière d'accordéon à la Java à Valence et l'autre qui joue la guitare une guitare typiquement italienne, une guitare battente et il habite Die, mais il était mon élève de tambourin à Paris il y a 9 ans.
Ah oui.
Donc c'est tout.
C'est drôle ça.
Ouais. Et donc, on a décidé de monter un. Déjà, aussi, un peu la nostalgie, ça m'a fait créer ce projet-là, un peu de nostalgie italienne. Donc, il y a qui pour l'instant de musique traditionnelle, un peu révisitée, de composition.
Composez-vous.
J'ai
enfin,
composé.
Tu fais les deux, quoi. Tu prends des musiques qui existent déjà et tu composes.
Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, j'ai fait un répertoire de musique traditionnelle. Et il n'y a que 2 compositions. Le but, c'est d'avoir plus de compositions que de musique traditionnelle. Donc, de faire de nouvelles compositions inspirées à la musique traditionnelle. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est le but. Mais il faudra au moins un an et demi.
C'est toi qui composes ou c'est vous composez tous les trois?
C'est moi. C'est toi. Moi. C'est mon travail.
Les deux personnes qui font partie du groupe sont aussi d'origine italienne?
Non.
Non,
non, non, non. Non, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça.
L'échange que vous pouvez avoir avec des cultures différentes.
Cultures différentes, sachant que l'accordioniste s'appelle Richard Posselt et c'est une encyclopédie de la musique, une culture musicale énorme. Et tu peux faire le tour du monde avec lui en restant dans une pièce. Juste, il peut jouer de tout. Et donc, ça peut enrichir beaucoup et donner un peu de modernité aussi à cette musique. Et de l'autre côté, j'ai Jean Ollion, c'est un biologiste en réalité, mais un passionné
de musique
italienne et mexicaine. Et ouais, Amérique centrale, colombienne aussi. Et c'est vraiment rare déjà parce que il joue un instrument qui, même en Italie, c'est rare à trouver. Cette guitare battante, et c'est très difficile à trouver. Le fait qu'il y en a un ici, c'est...
Tu pouvais que jouer avec lui.
Bah oui. Donc, on a ce côté très traditionnel à côté, d'un côté. De l'autre, j'ai un autre qui a en fait un langage infini musical. Et donc, ça va être très intéressant, je pense.
Oui. C'est riche avec... vous apportez chacun quelque chose de différent, en fait.
Bien sûr.
Ouais. D'accord. Et vous chantez tous les trois ou...
Il y a moi qui chante principalement et après il y a le guitariste aussi qui chante.
Deux fois.
Ouais, pour l'instant.
Vous voulez écouter un petit morceau de Tarantella ?
Tarantella.
Ah, ça c'est le teaser de... Ouais, voilà.
Ouais, okay. On met ça ?
Ok.
Allez.
On met ça.
C'est parti.
Tarantella étant ton nouveau groupe.
Ouais. Ah ouais.
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Notre invité ce soir est Claudio, qui vient d'Italie. Et l'émission arrive quasi à sa fin. Mais on serait bien revenu avec toi sur ton travail dans le théâtre.
Oui.
Si tu veux bien nous en parler un petit peu.
Ben, vu que vous parlez de vie, de changement, de voyage... J'allais bien me parler de Fabio Marra, qui est un metteur en scène napolitain, qui est arrivé à Paris en même temps que moi, le même mois, pile, en août 2005. Moi, j'étais devant le Pompidou en train de jouer dans la rue, et lui, il était il était vraiment à côté, en train de faire de Pulcinella dans la rue aussi, pour les mêmes raisons, en fait. Mais on ne s'est jamais croisés. On s'est croisés plus tard, en 2014. Et lui avait un peu développé, il est parti aussi pour des raisons plutôt culturelles, artistiques. Il a pu monter sa compagnie et tout ça, d'où il est metteur en scène, il écrit ses propres pièces, il est comédien de ses propres pièces et tout ça. Et puis on s'est recroisés, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler ensemble. C'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler, à faire des musiques pour les pièces de théâtre. Et je me suis lancé un peu dans ce domaine-là. Et là, j'ai eu la chance aussi, la dernière pièce qu'il a fait s'appelle La couleur des souvenirs, et qui j'ai pu travailler, j'ai connaître Dominique Pinon, Catherine Arditi, et donc voir leur travail, leurs répètes. J'ai eu la grande chance de voir les répètes aussi et pouvoir adapter ma musique à eux, quoi.
Donc, et dans tes nouveaux projets, tu as l'intention de continuer à faire de la musique de théâtre aussi ?
Bien sûr. J'espère aussi d'aller vers le cinéma, en fait. C'est un peu... je pense que c'est un rêve de beaucoup de musiciens. Mais ce n'est pas d'accès simple. Mais voilà, écrire la musique pour l'image, en général, c'est très inspirant. Et tu découvres des parties de toi que en fait, tu ne connaissais pas avant. Donc, c'est une belle démarche, on peut dire.
Pour terminer cette émission, est-ce qu'on peut te demander de jouer en direct un petit peu, un morceau?
Voilà. Ah ouais,
avec le tambourin, de chanter.
Faire du bruit. Là, tu as mis la musique d'une pièce de Fabio Mar, alors. Voilà, ça, c'est la musique de Un pas après l'autre. C'était la pièce. Cette musique, je l'ai composée pendant le confinement. Donc, ça,
c'est vraiment éclectique ce que tu fais quand même, hein, parce que rien ne ressemble au morceau d'avant. Hein.
Ok, je coupe et puis on fait un peu de live alors.
On fait un peu de live et puis on termine notre émission là-dessus. Claudio, on te remercie beaucoup.
Merci à vous.
Et je vous rappelle notre prochaine émission qui sera sur l'accueil.
Ah oui, bah tiens, j'en profite pour dire un petit mot là. Juste avant, je remets la bande son.
Pendant que Claudio se prépare.
Avec l'association Exilés et Crétois. Et donc ils vont faire leur AG qui est ouverte à tout le monde le 16 novembre à 19h30 à la MJC de Oust. Ils ont plein d'envies de structuration, mais aussi de beaux projets pour l'accueil des personnes qui arrivent dans la vallée. Et c'est vraiment une belle équipe. Et plus on est de fous, plus on rit.
Et on vous dit au revoir sur la musique en live.
Avec le tambourin.
Avec le tambourin.
Le tambourin, qui change de technique en même temps des dialectes, d'Italie. Chaque région a sa technique, comme chaque région a sa langue. Et c'est très riche, quoi.
Super mot de la fin.
Troppo pulenda era da mo vestita può e cai domeniche poche asci ogni giorno è sempre fe e a fatica mo va muri mamma che non voglio faticare tua mamma che non voglio faticare più tua mamma che non voglio faticare più.
Ouais, bravo.
Super. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Claudio.